Stendhal, De l'amour, suite et fin. Chapitre 31. Extrait du journal de Salviati. Bologne, 29 avril 1818. Désespéré du malheur où l'amour me réduit, je maudis mon existence. Je n'ai le cœur à rien. Le temps est sombre, il pleut, un froid tardif est venu rattrister la nature qui, après un long hiver, s'élançait au printemps. Schiacetti, un colonel en demi-solde, un ami raisonnable et froid, est venu passer 2 heures avec moi. Vous devriez renoncer à l'aimer, mais comment faire? Rendez-moi ma passion pour la guerre. Oui, c'est un grand malheur pour vous de l'avoir connu. J'en conviens presque, tant je me sens abattu et sans courage, tant la mélancolie a aujourd'hui d'empire sur moi. Nous cherchons ensemble quel intérêt a pu porter son amie à me calomnier auprès d'elle. Nous ne trouvons rien que ce vieux proverbe napolitain « Femme qu'amour et jeunesse quittent se pique d'un rien ». Ce qu'il y a de sûr, c'est que cette femme cruelle est enragée contre moi. C'est le mot d'un de ses amis. Je puis me venger d'une manière atroce, mais contre sa haine, je n'ai pas le plus petit moyen de défense. Schiacetti me quitte. Je sors par la pluie, ne sachant que devenir. Mon appartement, ce salon que j'ai habité dans les premiers temps de notre connaissance et quand je la voyais, tous les soirs, m'est devenu insupportable. Chaque gravure, chaque meuble me reproche le bonheur que j'avais rêvé en leur présence et que j'ai perdu pour toujours. Je cours les rues par une pluie froide. Le hasard, ou si je puis l'appeler hasard, me fait passer sous ses fenêtres. Il était nuit tombante et je marchais les yeux pleins de larmes fixés sur la fenêtre de sa chambre. Tout à coup, le rideau a été un peu entrouvert comme pour voir sur la place et s'est refermé à l'instant. Je me suis senti un mouvement physique près du cœur. Je ne pouvais me soutenir. Je me réfugie sous le portique de la maison voisine. 1000 sentiments inondent mon âme. Le hasard a pu produire ce mouvement du rideau, mais si c'était sa main qui l'eût entrouvert. Il y a 2 malheurs au monde, celui de la passion contrariée et celui du dead blank. Avec l'amour, je sens qu'il existe à 2 pas de moi un bonheur immense, et au-delà de toutes mes vœux, qui ne dépend que d'un mot, que d'un sourire. Sans passion, comme Schiacetti, les jours tristes, je me vois nulle part le bonheur. J'arrive à douter qu'il existe pour moi. Je tombe dans le spleen. Il faudrait être sans passion forte et avoir seulement un peu de curiosité ou de vanité. Il est 2 heures du matin. J'ai vu le petit mouvement du rideau. À 6 heures, j'ai fait 10 visites. Je suis allé au spectacle, mais partout, silencieux et rêveur. J'ai passé la soirée à examiner cette question. Après tant de colère et si peu fondée, car enfin, voulais-je le vencer? Et quelle est la chose au monde que l'intention n'excuse pas? A-t-elle senti un moment d'amour? Le pauvre Salviati, qui a écrit ce qui précède sur son Pétrarque, mourut quelques temps après. Il était notre ami intime à Schiacetti et à moi. Nous connaissions toutes ses pensées, et c'est de lui que je tiens toute la partie lugubre de cet essai. C'était l'imprudence incarnée. Du reste, la femme pour laquelle il a fait tant de folies est l'être le plus intéressant que j'ai jamais rencontré. Schiacetti me disait « Mais croyez-vous que cette passion malheureuse ait été sans avantage pour Salviati ? D'abord, il éprouva le malheur d'argent le plus piquant qui se puisse imaginer. Ce malheur qui le réduisait à une fortune très médiocre, après une jeunesse brillante et qui l'eût outré de colère dans toutes circonstances, il ne s'en souvenait pas une fois tous les 15 jours. Ensuite, oh, ce qui est bien autrement important pour une tête de cette portée, cette passion est le premier véritable cours de logique qu'il ait jamais fait. Cela paraîtra singulier chez un homme qui a été à la cour, mais cela s'explique par son extrême courage. Par exemple, il passa sans sourciller la journée du qui le jetait dans le néant. Il s'étonnait là, comme en Russie, de ne rien sentir d'extraordinaire. Il est de fait qu'il n'a jamais rien craint au point d'y penser 2 jours. Au lieu de cette insouciance, depuis 2 ans, il cherchait à chaque minute à avoir du courage. Jusque-là, il n'avait pas vu de danger. Quand, par suite de ses imprudences et de sa confiance dans les bonnes interprétations, il se fut fait condamner à ne voir la femme qu'il aimait que 2 fois par mois, nous l'avons vu ivre de joie, passer les nuits à lui parler, parce qu'il en avait été reçu avec cette candeur noble qu'il adorait en elle. Il tenait que madame et lui avaient 2 amours de père et qu'ils devaient s'entendre d'un regard. Il ne pouvait comprendre qu'elle accordât la moindre attention aux petites interprétations bourgeoises qui pouvaient le faire criminel. Le résultat de cette belle confiance dans une femme entourée de ses ennemis, puis de se faire fermer la porte. Mais avec madame X, lui disais-je, vous oubliez vos maximes et qu'il ne faut croire à la grandeur d'âme qu'à la dernière extrémité. Croyez-vous, répondit-il, qu'il y ait au monde un autre cœur qui convienne mieux au sien? Il est vrai, oui, je paye cette manière d'être passionné qui me fait voir Léonore en colère dans la ligne d'horizon des rochers de Poligny, par le malheur de toutes mes entreprises dans la vie réelle. Malheur qui provient du manque de patience, d'industrie et d'imprudence produite par la force de l'impression du moment. On voit la nuance de folie. Pour Salviati, la vie était divisée en périodes de 15 jours, qui prenaient la couleur de la dernière entrevue qu'on lui avait accordée. Mais je remarquai plusieurs fois que le bonheur qu'il devait à un accueil qui lui semblait moins froid était bien inférieur en intensité au malheur que lui donnait une réception sévère. Madame X manquait quelquefois de franchise avec lui. Voilà les 2 seules objections que je n'ai jamais osé lui faire. Outre ce que sa douleur avait de plus intime et dont il eut la délicatesse de ne jamais parler même à ses amis les plus chers et les plus exempts d'envie, il voyait dans une réception sévère de Léonore le triomphe des âmes prosaïques et intrigantes sur les âmes franches et généreuses. Alors il désespérait de la vertu et surtout de la gloire. Il ne se permettait de parler à ses amis que des idées tristes à la vérité auxquelles le conduisait sa passion, mais qui d'ailleurs pouvaient avoir quelque intérêt aux yeux de la philosophie. J'étais curieux d'observer cette âme bizarre. Ordinairement, l'amour-passion se rencontre chez des gens un peu niais à l'allemande. Salviati, au contraire, était au nombre des hommes les plus fermes et les plus spirituels que j'ai connus. J'ai cru voir qu'après ses visites sévères, il n'était tranquille que quand il s'était justifié les rigueurs de Léonore. Tant qu'il trouvait qu'elle pouvait avoir eu tort de le maltraiter, il était malheureux. Je n'aurais jamais cru l'amour si exempt de vanité. Il nous faisait sans cesse l'éloge de l'amour. Si un pouvoir surnaturel me disait « brisez le verre de cette montre, et Léonore sera pour vous ce qu'elle était il y a 3 ans, une amie indifférente », En vérité, je crois que dans aucun moment de ma vie, je n'aurai le courage de le briser. Mais je le voyais si fou en faisant ce raisonnement que je n'eus jamais le courage de lui présenter les objections précédentes. Il ajoutait, comme la réformation de Luther à la fin du Moyen-Âge, ébranlant la société jusqu'à ses fondements, renouvela et reconstitua le monde sur des bases raisonnables, ainsi un caractère généreux est renouvelé et retrempé par l'amour. Ce n'est qu'alors qu'il dépouille tous les enfantillages de la vie. Sans cette révolution, il eût toujours eu je ne sais quoi dans peser le théâtral. Ce n'est que depuis que j'aime que j'ai appris à voir la grandeur dans le caractère, tant notre éducation d'école militaire est ridicule. Quoique me conduisant bien, j'étais un enfant à la cour de Napoléon et à Moscou. Je faisais mon devoir, mais j'ignorais cette simplicité héroïque, fruit d'un sacrifice entier et de bonne foi. Il n'y a qu'un an, par exemple, que mon cœur comprend la simplicité des Romains de Tite-Live. Autrefois, je les trouvais froids, comparés à nos brillants colonels. Ce qu'ils faisaient pour leur Rome, eh bien, je le trouve dans mon cœur pour Léonore. Si j'avais le bonheur de pouvoir faire quelque chose pour elle, mon premier désir serait de le cacher. La conduite des Régulus, des Décius, était une chose convenue d'avance et qui n'avait pas le droit de les surprendre. J'étais petit avant d'aimer, précisément parce que j'étais tenté quelquefois de me trouver grand. Il y avait un certain effort que je sentais et dont je m'applaudissais. Et du côté des affections, que ne doit-on pas à l'amour? Après les hasards de la première jeunesse, le cœur se ferme à la sympathie. La mort ou l'absence éloigne-t-elle des compagnons de l'enfance? L'on est réduit à passer la vie avec de froids associés, la demi-aune à la main, toujours calculant des idées d'intérêt ou de vanité. Peu à peu, toute la partie tendre et généreuse de l'âme devient stérile, faute de culture, et à moins de 30 ans, l'homme se trouve pétrifié à toutes les sensations douces et tendres. Au milieu de ce désert aride, l'amour fait jaillir une source de sentiments plus abondante et plus fraîche même que celle de la première jeunesse. Il y avait alors une espérance vague, folle et sans cesse distraite, jamais de dévouement pour rien, jamais de désirs constants et profonds. L'âme, toujours légère, avait soif de nouveautés et négligeait aujourd'hui ce qu'elle adorait hier. Et rien n'est plus recueilli, plus mystérieux, plus éternellement un dans son objet que la cristallisation de l'amour. Alors les seules choses agréables avaient droit de plaire et de plaire un instant. Maintenant, tout ce qui a rapport à ce qu'on aime, et même les objets les plus indifférents, touchent profondément. Arrivant dans une grande ville à 100 000 de celle qu'habite Léonore, je me suis trouvé tout timide et tremblant. À chaque détour de rue, je frémissais de rencontrer Alvisa, l'ami intime de madame et ami que je ne connais pas. Tout a pris pour moi une teinte mystérieuse et sacrée. Mon cœur palpitait en parlant à un vieux savant. Je ne pouvais sans rougir entendre nommer la porte près de laquelle habite l'ami de Léonore. Même les rigueurs de la femme qu'on aime ont des grâces infinies, mais que l'on ne trouve pas dans les moments les plus flatteurs auprès des autres femmes. C'est ainsi que les grandes ombres des tableaux du Corrège, loin d'être comme chez les autres peintres des passages peu agréables, mais nécessaires à faire valoir l'éclair et à donner du relief aux figures, ont par elles-mêmes des grâces charmantes et qui jettent dans une douce rêverie. Oui, la moitié, la plus belle moitié de la vie est cachée à l'homme qui n'a pas aimé avec passion. Salviati avait besoin de toute la force de sa dialectique pour tenir tête au sage Schiacetti, qui lui disait toujours « Mais voulez-vous être heureux, contentez-vous d'une vie exempte de peine, et chaque jour d'une petite quantité de bonheur, défendez-vous de la loterie des grandes passions. » « Ah, donnez-moi donc votre curiosité, » répondait Salviati. Je crois qu'il y avait bien des jours où il aurait voulu pouvoir suivre les avis de notre sage colonel. Il luttait un peu, il croyait réussir, mais ce parti était absolument au-dessus de ses forces. Et cependant, quelle force n'avait pas cette âme ? Un chapeau de satin blanc ressemblant un peu à celui de Madame Mix, qu'il voyait de loin dans la rue, arrêtait le battement de son cœur et le forçait à s'appuyer contre le mur. Même dans les plus tristes moments, le bonheur de la rencontrer lui donnait toujours quelques heures d'ivresse au-dessus de l'influence de tous les malheurs et de tous les raisonnements. Du reste, il est de fait qu'à sa mort, après 2 ans de cette passion généreuse et sans bornes, son caractère avait contracté plusieurs nobles habitudes, et qu'à cet égard, du moins, il en jugeait correctement. S'il eût vécu et que les circonstances l'eussent un peu servi, il eût fait parler de lui. Peut-être aussi qu'à force de simplicité, son mérite eût passé invisible sur cette terre. Chapitre 32 De l'intimité. Le plus grand bonheur que puisse donner l'amour, c'est le premier serrement de main d'une femme qu'on aime. Le bonheur de la galanterie, au contraire, est beaucoup plus réel et beaucoup plus sujet à la plaisanterie. Dans l'amour-passion, l'intimité n'est pas tant le bonheur parfait que le dernier pas pour y arriver. Mais comment peindre le bonheur s'il ne laisse pas de souvenirs? Mortimer revenait tremblant d'un long voyage. Il adorait Jenny. Elle n'avait pas répondu à ses lettres. En arrivant à Londres, il monte à cheval et va la chercher à sa maison de campagne. Il arrive, elle se promenait dans le parc. Il y court, le cœur palpitant. Il la rencontre, elle lui tend la main, le reçoit avec trouble. Il voit qu'il est aimé. En parcourant avec elle les allées du parc, la robe de Jenny s'embarrassa dans un buisson d'acacias épineux. Dans la suite, Mortimer fut heureux, mais Jenny fut infidèle. Je lui soutiens que Jenny ne l'a jamais aimé, et il me cite comme preuve de son amour la manière dont elle le reçut à son retour du continent, mais jamais il n'a pu me donner le moindre détail. Seulement il tressaille visiblement dès qu'il voit un buisson d'acacia. C'est réellement le seul souvenir distinct qu'il avait conservé du moment le plus heureux de sa vie. Un homme sensible et franc, un ancien chevalier, me faisait confidence ce soir, au fond de notre barque battue par un gros temps sur le lac de Garde, de l'histoire de ses amours, dont à mon tour je ne ferai pas confidence au public, mais dans lequel je me crois en droit de conclure que le moment de l'intimité est, comme ces belles journées du mois de mai, une époque délicate pour les plus belles fleurs, un moment qui peut être fatal et flétrir en un instant les plus belles espérances. On ne saurait trop louer le naturel. C'est la seule coquetterie permise dans une chose aussi sérieuse que l'amour à la Werther, où l'on ne sait pas où l'on va. Et en même temps, par un hasard heureux pour la vertu, c'est la meilleure tactique. Sans s'en douter, un homme vraiment touché dit des choses charmantes. Il parle une langue qu'il ne sait pas. Malheur à l'homme le moins du monde affecté. Même quand il aimerait, même avec tout l'esprit possible, il perd les 3/4 de ses avantages. Se laisse-t-on aller un instant à l'affectation, une minute après, l'on a un moment de sécheresse. Tout l'art d'aimer se réduit, ce me semble, à dire exactement ce que le degré d'ivresse du moment comporte, c'est-à-dire, en d'autres termes, à écouter son âme. Il ne faut pas croire que cela soit si facile. Un homme qui aime vraiment, quand son ami lui dit des choses qui le rendent heureux, n'a plus la force de parler. Il perd ainsi les actions qu'auraient fait naître ses paroles, et il vaut mieux se taire que de dire hors de temps des choses trop tendres. Ce qui était placé il y a 10 secondes ne l'est plus du tout et fait tache en ce moment. Toutes les fois que je manquais à cette règle et que je disais une chose qui m'était venue 3 minutes auparavant et que je trouvais jolie, Léonore ne manquait pas de me battre. Je me disais ensuite en sortant, « Elle a raison, voilà de ces choses qui doivent choquer extrêmement une femme délicate. C'est une indécence de sentiment. » Elles admettraient plutôt, comme les rhéteurs de mauvais goût, un degré de faiblesse et de froideur. N'ayant à redouter au monde que la fausseté de leur amant, la moindre petite insincérité de détail, fût-elle la plus innocente du monde, les prive à l'instant de tout bonheur et les jette dans la méfiance. Les femmes honnêtes ont de l'éloignement pour la véhémence et l'imprévu, qui sont cependant les caractères de la passion. Outre que la véhémence alarme la pudeur, elles se défendent. Quand quelque mouvement de jalousie ou de déplaisir a mis deux sang-froid, on peut en général entreprendre les discours propres à faire naître cette ivresse favorable à l'amour. Et si après les 2 ou 3 premières phrases d'exposition, l'on ne manque pas l'occasion de dire exactement ce que l'âme suggère, on donnera des plaisirs vifs à ce qu'on aime. L'erreur de la plupart des hommes, c'est qu'ils veulent arriver à dire telle chose qu'ils trouvent jolie, spirituelle, touchante, au lieu de détendre leur âme, de l'empeser du monde, jusqu'à ce degré d'intimité, de naturel, d'exprimer naïvement ce qu'elle sent dans le moment. Si l'on a ce courage, l'on recevra à l'instant sa récompense, par une espèce de raccommodement. Et c'est cette récompense, aussi rapide qu'involontaire, des plaisirs que l'on donne à ce qu'on aime, qui met cette passion si fort au-dessus des autres. S'il y a le naturel parfait, le bonheur de 2 individus arrive à être confondu. À cause de la sympathie et de plusieurs autres lois de notre nature, c'est tout simplement le plus grand bonheur qui puisse exister. Il n'est rien moins que facile de déterminer le sens de cette parole naturelle, condition nécessaire du bonheur par l'amour. On appelle naturel ce qui ne s'écarte pas de la manière habituelle d'agir. Il va sans dire qu'il ne faut jamais non seulement mentir à ce qu'on aime, mais même embellir le moins du monde et altérer la pureté de trait de la vérité. Car si l'on embellit, l'attention est occupée à embellir et on ne répond plus naïvement, comme la touche d'un piano, au sentiment qui se montre dans ses yeux. Elle s'en aperçoit bientôt, à je ne sais quel froid qu'elle éprouve, et à son retour, a recours à la coquetterie. Ne serait-ce point ici la raison cachée qui fait qu'on ne saurait aimer une femme d'un esprit trop inférieur? C'est qu'auprès d'elle, on peut feindre impunément, et comme feindre est plus commode à cause de l'habitude, on se livre au manque de naturel. Dès lors, l'amour n'est plus amour, il tombe à n'être qu'une affaire ordinaire. La seule différence, c'est qu'au lieu d'argent, on gagne du plaisir ou de la vanité, ou un mélange des deux. Mais il est difficile de ne pas éprouver une nuance de mépris pour une femme avec qui l'on peut impunément jouer la comédie, et par conséquent, il ne manque pour la planter là que de rencontrer à cet égard. L'habitude ou les serments peuvent retenir, mais je parle du penchant du cœur, dont le naturel est de voler au plus grand plaisir. Et revenant à ce mot naturel, naturel et habituel sont 2 choses. Si l'on pense ces mots dans le même sens, il est évident que plus on a de sensibilité, plus il est difficile d'être naturel, car l'habitude a un empire moins puissant sur la manière d'être et d'agir, et l'homme est davantage à chaque circonstance. Toutes les pages de la vie d'un être froid sont les mêmes. Prenez-le aujourd'hui, prenez-le hier, c'est toujours la même main de bois. Un homme sensible, dès que son cœur est ému, ne trouve plus en soi de traces d'habitude pour guider ses actions. Et comment pourrait-il suivre un chemin dont il n'a plus le sentiment? Il sent le poids immense qui s'attache à chaque parole qu'il dit à ce qu'il aime. Il lui semble qu'un mot va décider de son sort. Comment pourra-t-il ne pas chercher à bien dire? Ou du moins, comment n'aura-t-il pas le sentiment qu'il dit bien? Dès lors, il n'y a plus de candeur. Donc, il ne faut pas prétendre à la candeur, cette qualité d'une âme qui ne fait aucun retour sur elle-même. On est ce qu'on peut, mais on sent ce qu'on est. Je crois que nous voilà arrivés au dernier degré de naturel que le cœur le plus délicat puisse prétendre en amour. Un homme passionné ne peut qu'embrasser fortement, comme sa seule ressource dans la tempête, le serment de ne jamais changer en rien la vérité et de lire correctement dans son cœur. Si la conversation est vive et entrecoupée, il peut espérer de beaux moments de naturel, autrement, il ne sera parfaitement naturel que dans les heures où il aimera un peu moins à la folie. Auprès de ce qu'on aime, à peine le naturel reste-t-il dans les mouvements, dont cependant les habitudes sont si profondément enracinées dans les muscles. Quand je donnais le bras à Léonore, il me semblait toujours être sur le point de tomber, et je pensais à bien marcher. Tout ce qu'on peut, c'est de n'être jamais affecté volontairement. Il suffit d'être persuadé que le manque de naturel est le plus grand des avantages possibles et peut aisément être la source des plus grands malheurs. Le cœur de la femme que vous aimez n'entend plus le vôtre. Vous perdez ce mouvement nerveux et involontaire de la franchise qui répond à la franchise. C'est perdre tous les moyens de la toucher, j'ai presque dit de la séduire. Ce n'est pas que je prétende nier qu'une femme digne d'amour peut voir son destin dans cette jolie devise du lierre, qui meurt s'il ne s'attache. C'est une loi de la nature, mais c'est toujours un pas décisif pour le bonheur que de faire celui de l'homme qu'on aime. Il me semble qu'une femme raisonnable ne doit tout accorder à son amant que quand elle ne peut plus se défendre, et le plus léger soupçon sur la sincérité de votre cœur lui rend sur le champ un peu de force, et assez du moins pour retarder encore d'un jour sa défaite. Est-il besoin d'ajouter que pour rendre tout ceci le comble du ridicule, il suffit de l'appliquer à l'amour-goût? Chapitre 33, sans titre. Toujours un petit doute à calmer, voilà ce qui fait la soif de tous les instants, voilà ce qui fait la vie de l'amour heureux. Comme la crainte ne l'abandonne jamais, ses plaisirs ne peuvent jamais ennuyer. Le caractère de ce bonheur, c'est l'extrême sérieux. Chapitre 34. Des confidences. Il n'y a pas au monde d'insolence plus vite punie que celle qui vous fait confier à un ami intime un amour-passion. Il sait, si ce que vous dites est vrai, que vous avez des plaisirs mille fois au-dessus des siens et qui vous font mépriser les siens. Mais c'est bien pis encore entre femmes. La fortune de leur vie étant d'inspirer une passion, et d'ordinaire, la confidente aussi ayant exposé son amabilité au regard de l'amant. D'un autre côté, pour l'être dévoré de cette fièvre, il n'est pas au monde de besoin moral plus impérieux que celui d'un ami devant qui l'on puisse raisonner sur les doutes affreux qui s'emparent de l'âme à chaque instant. Car dans cette passion terrible, toujours une chose imaginée est une chose existante. Un grand défaut du caractère de Salviati, écrivait-il en 1817, en cela bien opposé à celui de Napoléon, c'est que lorsque dans la discussion des intérêts d'une passion, quelque chose vient à être moralement démontré, il ne peut prendre sur lui de partir de cette base comme d'un fait à jamais établi. Et malgré lui, et à son grand malheur, le remet sans cesse en discussion. C'est qu'il est aisé d'avoir du courage dans l'ambition. La cristallisation qui n'est pas subjuguée par le désir de la chose à obtenir s'emploie à fortifier le courage. En amour, elle est tout au service de l'objet contre lequel on doit avoir du courage. Une femme peut trouver une amie perfide, elle peut trouver aussi une amie ennuyée. Une princesse de 35 ans, ennuyée et poursuivie par le besoin d'agir, d'intriguer, etc., etc., mécontente de la tiédeur de son amant, et cependant ne pouvant espérer de faire naître un autre amour, ne sachant que faire de l'activité qui la dévore, et n'ayant d'autre distraction que des accès du mur noir, peut fort bien trouver une occupation, c'est-à-dire un plaisir et un but dans la vie, à rendre malheureuse une vraie passion, passion qu'on a l'insolence de sentir pour une autre qu'elle, tandis que son amant s'endort à ses côtés. C'est le seul cas où la haine produise bonheur, c'est qu'elle procure occupation et travail. Dès les premiers instants, le plaisir de faire quelque chose, dès que l'entreprise est soupçonnée de la société, la pique de réussir donne du charme à cette occupation. La jalousie pour l'ami prend le masque de la haine pour l'amant. Autrement, comment pourrait-on haïr à la fureur un homme qu'on n'a jamais vu ? On a garde de s'avouer l'envie, car il faudrait d'abord s'avouer le mérite. Et on a des flatteurs qui ne se soutiennent à la cour qu'en donnant des ridicules à la bonne amie. La confidente perfide, tout en se permettant des actions de la dernière noirceur, peut fort bien se croire uniquement animée par le désir de ne pas perdre une amitié précieuse. La femme ennuyée se dit que l'amitié même languit dans un cœur dévoré par l'amour et ses anxiétés mortelles. À côté de l'amour, l'amitié ne peut se soutenir que par les confidences. Or, quoi de plus odieux pour l'envie que de telles confidences ? Les seules qui soient bien reçues entre femmes sont celles qu'accompagnent la franchise de ce raisonnement. Ma chère amie, dans la guerre aussi absurde qu'implacable que nous font les préjugés mis en vogue par nos tyrans, servez-moi aujourd'hui, demain ce sera mon tour. Avant cette exception, il y a celle de la véritable amitié, née dans l'enfance et non gâtée depuis par aucune jalousie. Les confidences d'amour-passion ne sont bien reçues qu'entre écoliers et amoureux de l'amour, et entre jeunes filles dévorées par la curiosité, par la tendresse à employer, et peut-être entraînées déjà par l'instinct qui leur dit que c'est là la grande affaire de leur vie et qu'elles ne sauraient trop tôt s'en occuper. Tout le monde a vu des petites filles de 3 ans s'acquitter fort bien des devoirs de la galanterie. L'amour-goût s'enflamme et l'amour-passion se refroidit par les confidences. Outre les dangers, il y a la difficulté des confidences. En amour-passion, ce qu'on ne peut pas exprimer, parce que la langue est trop grossière pour atteindre ses nuances, n'en existe pas moins pour cela. Seulement, comme ce sont des choses très fines, on est plus sujet à se tromper en les observant. Et un observateur très ému observe mal. Il est injuste envers le hasard. Ce qu'il y a peut-être de plus sage, c'est de se faire soi-même son propre confident. Écrivez ce soir, sous des noms empruntés, mais avec tous les détails caractéristiques, le dialogue que vous venez d'avoir avec votre ami et la difficulté qui vous trouble. Eh bien, dans 8 jours, si vous avez l'amour-passion, vous serez un autre homme. Et alors, lisant votre consultation, vous pourrez vous donner un bon avis. Entre hommes, dès qu'on est plus de 2 et que l'envie peut paraître, la politesse oblige à ne parler que d'amour physique. Voyez la fin des dîners d'hommes. Ce sont les sonnets de Baffo que l'on récite et qui font un plaisir infini parce que chacun prend au pied de la lettre les louanges et les transports de son voisin qui bien souvent ne veut que paraître gai ou poli. Les charmantes tendresses de Pétrarque ou les madrigaux français seraient déplacés. Chapitre 35 de la jalousie. Quand on aime à chaque nouvel objet qui frappe les yeux ou la mémoire, serré dans une tribune et attentif à écouter une discussion des chambres ou allant au galop relever une grande garde sous le feu de l'ennemi, toujours l'on ajoute une nouvelle perfection à l'idée qu'on a de sa maîtresse, où l'on découvre un nouveau moyen qui d'abord semble excellent de s'en faire aimer davantage. Chaque pas de l'imagination est payé par un moment de délice. Il n'est pas étonnant qu'une telle manière d'être soit attachante. À l'instant où naît la jalousie, la même habitude de l'âme reste, mais pour produire un effet contraire. Chaque perfection que vous ajoutez à la couronne de l'objet que vous aimez, et qui peut-être en aime un autre, loin de vous procurer une jouissance céleste, vous retourne un poignard dans le cœur. Une voix vous crie « Ce plaisir si charmant, mais c'est ton rival qui en jouira. » Et les objets qui vous frappent, sans produire ce premier effet, au lieu de vous montrer, comme autrefois, un nouveau moyen de vous faire aimer, vous font voir un nouvel avantage du rival. Vous rencontrez une jolie femme galopant dans le parc, et le rival est fameux par ses beaux chevaux qui lui font faire 10 000 en 50 minutes. Dans cet état, la fureur naît facilement. L'on ne se rappelle plus qu'en amour, posséder n'est rien, c'est jouir qui fait tout. L'on s'exagère le bonheur du rival. L'on s'exagère l'insolence que lui donne ce bonheur. Et l'on arrive au comble des tourments, c'est-à-dire à l'extrême malheur empoisonné encore d'un reste d'espérance. Le seul remède est peut-être d'observer de très près le bonheur du rival. Souvent, vous le verrez s'endormir paisiblement dans le salon où se trouve cette femme qui, à chaque chapeau qui ressemble au sien et que vous voyez de loin dans la rue, arrête le battement de votre cœur. Voulez-vous le réveiller ? Il suffit de montrer votre jalousie. Vous aurez peut-être l'avantage de lui apprendre le prix de la femme qui le préfère à vous, et il vous donnera l'amour qu'il prendra pour elle. À l'égard du rival, où il n'y a pas de milieu, il faut ou plaisanter avec lui de l'air le plus dégagé qu'il se pourra, ou lui faire peur. La jalousie étant le plus grand de tous les maux, on trouvera qu'exposer sa vie est une diversion agréable. Car alors nos rêveries ne sont pas toutes empoisonnées, et tournant au noir par le mécanisme exposé ci-dessus, l'on peut se figurer quelquefois qu'on tue ce rival. D'après le principe qu'on ne doit jamais envoyer des forces à l'ennemi, il faut cacher votre amour au rival, et sous un prétexte de vanité et le plus éloigné possible de l'amour, lui dire en grand secret, avec toute la politesse possible et de l'air le plus calme et le plus simple. « Monsieur, je ne sais pourquoi le public s'avise de me donner la petite une telle. On a même la bonté de croire que j'en suis amoureux. Si vous la voulez, vous, je vous la céderai de grand cœur. Si malheureusement je m'exposais à jouer un rôle ridicule. Dans 6 mois, prenez-la tant qu'il vous plaira, mais aujourd'hui, l'honneur qu'on attache, oh, je ne sais pas pourquoi, à ces choses-là, m'oblige de vous dire, à mon grand regret, que si par hasard vous n'avez pas la justice d'attendre que votre tour soit venu, hein, il faut que l'un de nous demeure. Votre rival est probablement un homme non passionné, et peut-être un homme très prudent, qui, une fois qu'il sera convaincu de votre résolution, s'empressera de vous céder la femme en question, pour peu qu'il puisse trouver quelque prétexte honnête. C'est pour cela qu'il faut mettre de la gaieté dans votre déclaration et couvrir toute la démarche du plus profond secret. Ce qui rend la douleur de la jalousie si aiguë, c'est que la vanité ne peut aider à la supporter, et par la méthode dont je parle, votre vanité a une pâture. Vous pouvez vous estimer comme brave si vous êtes réduit à vous mépriser comme aimable. Si l'on aime mieux ne pas prendre les choses au tragique, il faut partir et aller à 40 lieues de là, entretenir une danseuse dont les charmes auront l'air de vous arrêter comme vous passiez. pour peu que le rival ait l'âme commune, il vous croira consolé. Très souvent, le meilleur parti est d'attendre sans sourciller que le rival s'use auprès de l'objet aimé par ses propres sottises. Car à moins d'une grande passion prise peu à peu et dans la première jeunesse, une femme d'esprit n'aime pas longtemps un homme commun. Dans le cas de la jalousie après l'intimité, il faut encore de l'indifférence apparente et de l'inconstance réelle, car beaucoup de femmes offensées par un amant qu'elles aiment encore s'attachent à l'homme pour lequel ils montrent de la jalousie, et le jeu devient une réalité. Je suis entré dans quelques détails, parce que dans ces moments de jalousie, on perd la tête le plus souvent. Des conseils écrits depuis longtemps font bien, et l'essentiel étant de feindre du calme, il est à propos de prendre le ton dans un écrit philosophique. Comme l'on a de pouvoir sur vous qu'en vous ôtant ou vous faisant espérer des choses dont la seule passion fait tout le prix, si vous parvenez à vous faire croire indifférent, tout à coup vos adversaires n'ont plus d'armes. Si l'on n'a aucune action à faire et que l'on puisse s'amuser à chercher du soulagement, on trouvera quelque plaisir à lire Othello. Il fera douter des apparences les plus concluantes. Je trouve écrit par Salviati, 20 juillet 1818. J'applique souvent et déraisonnablement, je crois, à la vie tout entière, le sentiment qu'un ambitieux ou un bon citoyen éprouve durant une bataille s'il se trouve employé à garder le parc de réserve ou dans tout autre poste sans péril et sans action. J'aurais eu du regret à 40 ans d'avoir passé l'âge d'aimer sans passion profonde. J'aurais eu ce déplaisir amer et qui rabaisse de m'apercevoir trop tard que j'avais eu la duperie de laisser passer la vie sans vivre. J'ai passé hier 3 heures avec la femme que j'aime et avec un rival qu'elle veut me faire croire bien traité. Sans doute, il y a eu des moments d'amertume en observant ses beaux yeux fixés sur lui, et en sortant de chez elle, des transports vifs de l'extrême malheur à l'espérance. Mais que de choses neuves, que de pensées vives, que de raisonnements rapides, et malgré le bonheur apparent du rival, avec quel orgueil et quel délice mon amour se sentait au-dessus du sien. Je me disais, ces joues-là pâliraient de la plus vile peur au moindre des sacrifices que mon amour ferait en se jouant. Que dis-je, avec bonheur, par exemple, mettre la main au chapeau pour tirer l'une de ces 2 billets, être aimé d'elle, l'autre mourir à l'instant. Et ce sentiment est si plein de pied chez moi qui ne m'empêcherait point d'être aimable et à la conversation. Si l'on m'eût conté cela il y a 2 ans, je me serais moqué. Et je lis dans Le voyage des capitaines Lewis et Clark, fait aux sources du Missouri en 1806, page 215. Les Ricanas sont pauvres, mais bons et généreux. Nous vécûmes assez longtemps dans 3 de leurs villages. Leurs femmes sont plus belles que celles de toutes les autres peuplades que nous avons rencontrées. Elles sont aussi très disposées à ne pas faire languir leurs amants. Nous trouvâmes un nouvel exemple de cette vérité, qu'il suffit de courir le monde pour voir que tout est variable. Parmi les Ricaras, c'est un grand sujet d'offense si, sans le consentement de son mari ou de son frère, une femme accorde ses faveurs. Mais du reste, les frères et les maris sont très contents d'avoir l'occasion de faire cette petite politesse à leurs amis. Nous avions un nègre parmi nos gens. Il fit beaucoup de sensations chez un peuple qui, pour la première fois, voyait un homme de cette couleur. Il fut bientôt le favori du beau sexe, et au lieu d'en être jaloux, nous voyions les maris enchantés de le voir arriver chez eux. Ce qu'il y a de plaisant, c'est que dans l'intérieur de huttes aussi exiguës, tout se voit. Chapitre 36. Suite de la jalousie. Quant à la femme soupçonnée d'inconstance, Elle vous quitte parce que vous avez découragé la cristallisation et vous avez peut-être dans son cœur l'appui de l'habitude. Elle vous quitte parce qu'elle est trop sûre de vous. Vous avez tué la crainte et les petits doutes de l'amour heureux ne peuvent plus naître. Inquiétez-la et surtout gardez-vous de l'absurdité des protestations. Dans le long temps que vous avez vécu auprès d'elle, vous aurez sans doute découvert quelle est la femme de la ville ou de la société qu'elle jalouse et qu'elle craint le plus. Faites la cour à cette femme, mais bien loin d'afficher votre cour, cherchez à la cacher, et cherchez-le de bonne foi. Fiez-vous-en aux yeux de la haine pour tout voir et tout sentir. Le profond éloignement que vous éprouverez pendant plusieurs mois pour toutes les femmes doit vous rendre ceci facile. Rappelez-vous que, dans la position où vous êtes, on gâte tout par l'apparence de la passion. Voyez peu la femme aimée, et buvez du champagne en bonne compagnie. Pour juger de l'amour de votre maîtresse, rappelez-vous, premièrement, que plus il entre le plaisir physique dans la base d'un amour, dans ce qui autrefois détermina l'intimité, plus il est sujet à l'inconstance et surtout à l'infidélité. Ceci s'applique surtout aux amours dont la cristallisation a été favorisée par le feu de la jeunesse à 16 ans. Deuxièmement, l'amour de deux personnes qui s'aiment n'est presque jamais le même. L'amour-passion a ses phases durant lesquelles, et tour à tour, l'un des deux aime davantage. Souvent, la simple galanterie ou l'amour de vanité répond à l'amour-passion, et c'est plutôt la femme qui aime avec transport. Quel que soit l'amour senti par l'un des deux amants, dès qu'il est jaloux, il exige que l'autre remplisse les conditions de l'amour-passion. La vanité simule en lui tous les besoins d'un cœur tendre. Enfin, rien n'ennuie l'amour-goût comme l'amour-passion dans son partenaire. Souvent, un homme d'esprit, en faisant la cour à une femme, n'a fait que la faire penser à l'amour et attendrir son âme. Elle reçoit bien cet homme d'esprit qui lui donne ce plaisir. Il prend des espérances. Un beau jour, cette femme rencontre l'homme qui lui fait sentir ce que l'autre a décrit. Je ne sais quels sont les effets de la jalousie d'un homme sur le cœur de la femme qu'il aime. De la part d'un amoureux qui ennuie, la jalousie doit inspirer un souverain dégoût qui va même jusqu'à la haine, si le jalousé est plus aimable que le jaloux, car l'on ne veut de la jalousie que de ceux dont on pourrait être jalouse, disait Madame de Coulanges. Si l'on aime le jaloux et qu'il n'est pas de droit, la jalousie peut choquer cet orgueil féminin, si difficile à ménager et à reconnaître. La jalousie peut plaire aux femmes qui ont de la fierté comme une manière nouvelle de leur montrer leur pouvoir. La jalousie peut plaire comme une manière nouvelle de prouver l'amour. La jalousie peut choquer la pudeur d'une femme ultra délicate. La jalousie peut plaire comme montrant la bravoure de l'amant. Ferrum amante. Notez bien que c'est la bravoure qu'on aime et non pas le courage à la Turenne qui peut fort bien s'allier avec un cœur froid. Une des conséquences du principe de la cristallisation, c'est qu'une femme ne doit jamais dire oui à l'amant qu'elle a trompé si elle veut faire jamais quelque chose de cet homme. Tel est le plaisir de continuer à jouir de cette image parfaite que nous nous sommes formés de l'objet qui nous engage, que jusqu'à ce oui fatal, l'on va chercher bien loin, plutôt que de mourir, quelques prétextes amis pour vivre et pour souffrir, disait André Chénier. On connaît en France l'anecdote de Mademoiselle de Sommery, qui, surprise en flagrant délit par son amant, lui nie le fait hardiment, et comme l'autre se récrie. « Oh, mais je vois bien, lui dit-elle, que vous ne m'aimez plus. Vous croyez plus ce que vous voyez que ce que je vous dis. » Se réconcilier avec une maîtresse adorée qui vous a fait une infidélité, c'est se donner à défaire à coups de poignard une cristallisation sans cesse renaissante. Il faut que l'amour meure, et que votre cœur sentira avec d'affreux déchirements tous les pas de son agonie. C'est une des combinaisons les plus malheureuses de cette passion et de la vie. Il faudrait avoir la force de se réconcilier, de ne se réconcilier que comme amis. Chapitre 37. Roxane. Quant à la jalousie chez les femmes, elles sont méfiantes, elles risquent infiniment plus que nous, elles ont plus sacrifié à l'amour, elles ont beaucoup moins de moyens de distraction, elles en ont beaucoup moins surtout de vérifier les actions de leur amant. Une femme se sent avilie par la jalousie. Elle a l'air de courir après un homme, elle se croit la risée de son amant, et qu'il se moque surtout de ses plus tendres transports. Elle doit pencher à la cruauté, et cependant elle ne peut tuer légalement sa rivale. Chez les femmes, la jalousie doit donc être un mal encore plus abominable, s'il se peut, que chez les hommes. C'est tout ce que le cœur humain peut supporter de rage impuissante et de mépris de soi-même sans se briser. Je ne connais d'autre remède à un mal si cruel que la mort de qui l'inspire ou de qui l'éprouve. On peut voir la jalousie française dans l'histoire de Madame de la Pommeraye de Jacques le Fataliste. La Rochefoucauld dit « On a honte d'avouer qu'on a de la jalousie et l'on se fait honneur d'en avoir eu et d'être capable d'en avoir. » Les pauvres femmes n'osent pas même avouer qu'elles ont éprouvé ce supplice cruel, tant il leur donne de ridicule. Une plaie si douloureuse ne doit jamais se cicatriser entièrement. Si la froide raison pouvait s'exposer au feu de l'imagination avec l'ombre de l'apparence du succès, je dirais aux pauvres femmes malheureuses par jalousie, il y a une grande différence entre l'infidélité chez les hommes et chez vous. Chez vous, cette action est en partie action directe, en partie signe. Par l'effet de notre éducation d'école militaire, elle n'est signe de rien chez l'homme. Par l'effet de la pudeur, elle est au contraire le plus décisif de tous les signes de dévouement chez la femme. Une mauvaise habitude en fait comme une nécessité aux hommes. Durant toute la première jeunesse, l'exemple de ce qu'on appelle les grands au collège fait que nous mettons toute notre vanité, toute la preuve de notre mérite dans le nombre des succès de ce genre. Et votre éducation, à vous, agit dans le sens inverse. Quant à la valeur d'une action comme signe, dans un mouvement de colère, je renverse une table sur le pied de mon voisin. Cela lui fait un mal du diable, mais peut fort bien s'arranger, ou bien je fais le geste de lui donner un soufflet. La différence de l'infidélité dans les deux sexes est si réelle qu'une femme passionnée peut pardonner une infidélité, ce qui est impossible à un homme. Voici une expérience décisive pour faire la différence de l'amour passion et de l'amour par pique. Chez les femmes, l'infidélité tue presque l'un et redouble l'autre. Les femmes fières dissimulent leur jalousie par orgueil. Elles passent de longues soirées, silencieuses et froides, avec cet homme qu'elles adorent, qu'elles tremblent de perdre, et aux yeux duquel elles se voient peu aimables. Ce doit être un des plus grands supplices possibles. C'est aussi une des sources les plus fécondes de malheur en amour. Pour guérir ces femmes si dignes de tout notre respect, il faut dans l'homme quelques démarches bizarres et fortes, et surtout, qui n'ait pas l'air de voir ce qui se passe. Par exemple, je prends un grand voyage avec elle, entrepris en 24 heures. Chapitre 38. De la pique d'amour-propre. La pique est un mouvement de la vanité. Je ne veux pas que mon antagoniste l'emporte sur moi, et je prends cet antagoniste lui-même pour juge de mon mérite. Je veux faire effet sur son cœur. C'est pour cela qu'on va beaucoup au-delà de ce qui est raisonnable. Quelquefois, pour justifier sa propre extravagance, l'on en vient au point de se dire que ce compétiteur a la prétention de vous faire sa dupe. La pique étant une maladie de l'honneur, est beaucoup plus fréquente qu'il s'en est monarchie et ne doit se montrer que bien plus rarement dans les pays où règne d'habitude d'apprécier les actions par leur degré d'utilité, aux États-Unis d'Amérique par exemple. Tout homme, et un Français plus qu'un autre, a bord d'être pris pour dupe. Cependant, la légèreté de l'ancien caractère monarchique français empêchait la pique de faire de grands ravages autre part que dans la galanterie ou l'amour-goût. La pique ne produisait des noirceurs remarquables que dans les monarchies où, par le climat, le caractère est plus sombre, le Portugal, le Piémont. Les provinciaux en France se font un modèle ridicule de ce que doit être dans le monde la considération d'un galant homme, et puis ils se mettent à l'affût et sont là toute leur vie à observer si personne ne saute le fossé. Ainsi, plus de naturel, ils sont toujours piqués et cette manie donne du ridicule même à leur amour. C'est après l'envie ce qui rend le plus insoutenable le séjour des petites villes, et c'est ce qu'il faut se dire lorsqu'on admire la situation pittoresque de quelqu'une d'elles. Les émotions les plus généreuses et les plus nobles sont paralysées par le contact de ce qu'il y a de plus bas dans les produits de la civilisation. Pour achever de se rendre malheureux, affreux, ces bourgeois ne parlent que de la corruption des grandes villes. La pique ne peut pas exister dans l'amour-passion. Elle est de l'orgueil féminin. Si je me laisse malmener par mon amant, il me méprisera et ne pourra plus m'aimer. Où elle est la jalousie avec toutes ses fureurs? La jalousie veut la mort de l'objet qu'elle craint. L'homme piqué est bien loin de là. Il veut que son ennemi vive et surtout soit témoin de son triomphe. L'homme piqué verrait avec peine son rival renoncer à la concurrence, car cet homme peut avoir l'insolence de se dire au fond du cœur « Si j'eusse continué à m'occuper de cet objet, je l'eusse emporté sur lui. » Dans la pique, on n'est nullement occupé du but apparent, il ne s'agit que de la victoire. C'est ce que l'on voit bien dans les amours des filles de l'opéra. Si vous éloignez la rivale, la prétendue passion qui allait jusqu'à se jeter par la fenêtre tombe à l'instant. L'amour par pique passe en un moment, au contraire de l'amour-passion. Il suffit que par une démarche irréfragable, l'antagoniste avoue renoncer à la lutte. J'hésite cependant à avancer cette maxime. Je n'en ai qu'un exemple et qui me laisse des doutes. Voici le fait, le lecteur jugera. Donna Diana est une jeune personne de 23 ans, fille d'un des plus riches et des plus fiers bourgeois de ces villes. Elle est belle, sans doute, mais d'une beauté marquée, et on lui accorde infiniment d'esprit et encore plus d'orgueil. Elle aimait passionnément, du moins en apparence, un jeune officier dont sa famille ne voulait pas. L'officier part pour l'Amérique avec Morillo. Ils s'écrivaient sans cesse. Un jour, chez la mère de Donna Diana, au milieu de beaucoup de monde, un sot annonce la mort de cet aimable jeune homme. Tous les yeux se tournent sur elle, et elle ne dit que ces mots « Oh, c'est dommage, si jeune !» Nous avions justement lu ce jour-là une pièce du vieux Massinger qui se termine d'une manière tragique, mais dans laquelle l'héroïne prend avec cette tranquillité apparente la mort de son amant. Je voyais la mère frémir malgré son orgueil et sa haine. Le père sortit pour gâcher sa joie. Et au milieu de tout cela, et des spectateurs interdits, et faisant des yeux au sot narrateur, Donna Diana, la seule tranquille, continua la conversation comme si de rien n'était. Sa mère effrayée la fit observer par sa femme de chambre, il ne parut rien de changé dans sa manière d'être. 2 ans après, un jeune homme très beau lui fait la cour. Encore cette fois, et toujours par la même raison, parce que le prétendant n'était pas noble, Les parents de Donna Diana s'opposent violemment à ce mariage. Elle déclare qu'il se fera. Il s'établit une pique d'amour-propre entre la jeune fille et son père. On interdit au jeune homme l'entrée de la maison. On ne conduit plus Donna Diana à la campagne et presque plus à l'église. On lui ôte, avec un soin recherché, tous les moyens possibles de rencontrer son amant. Lui se déguise et la voit en secret à de longs intervalles. Elle s'obstine de plus en plus et refuse les partis les plus brillants, même un titre et un grand établissement à la cour de Ferdinand VII. Toute la ville parle des malheurs de ces deux amants et de leur constance héroïque. Enfin, la majorité de Donna Diana approche. Elle fait entendre à son père qu'elle va jouir du droit de disposer d'elle-même. La famille, forcée dans ses derniers retranchements, commence les négociations du mariage. Quand il est à moitié conclu, dans une réunion officielle des deux familles, après 6 années de constance, le jeune homme refuse Donna Diana. Un quart d'heure après, elle n'y paraissait plus. Elle était consolée. Mais aimait-elle par pique? Ou est-ce une grande âme qui dédaigne de se donner avec sa douleur au spectacle au monde? Souvent, l'amour-passion ne peut arriver, dirais-je au bonheur, qu'en faisant naître une pique d'amour-propre. Alors il obtient en apparence tout ce qu'il saurait désirer. Ses plaintes seraient ridicules et paraîtraient insensées. Il ne peut pas faire confident de son malheur, et cependant ce malheur il le touche et le vérifie sans cesse. Ses preuves sont entrelacées, si je puis ainsi dire, avec les circonstances les plus flatteuses et les plus faites pour donner des illusions ravissantes. Ce malheur vient présenter sa tête hideuse, dans les moments les plus tendres, comme pour braver l'amant et lui faire sentir à la fois et tout le bonheur d'être aimé de l'être charmant et insensible qu'il serre dans ses bras, et que ce bonheur ne sera jamais rien. C'est peut-être, après la jalousie, le malheur le plus cruel. On se souvient encore, dans une grande ville, d'un homme doux et tendre, entraîné par une rage de cette espèce, a donné la mort à sa maîtresse qui ne l'aimait que par pique contre sa sœur. Il l'engagea, un soir, à aller se promener sur mer en tête à tête dans un joli canot qu'il avait préparé lui-même. Arrivé en haute mer, il touche un ressort, le canot s'ouvre et disparaît pour toujours. J'ai vu un homme de 60 ans se mettre à entretenir l'actrice la plus capricieuse, la plus folle, la plus aimable, la plus étonnante du théâtre de Londres, Miss Cornell. « Et vous prétendez qu'elle vous soit fidèle ?» lui disait-on. « Pas le moins du monde, seulement elle m'aimera, et peut-être à la folie. » Et elle l'a aimé un an entier, et souvent en perd de la raison, et elle a été jusqu'à 3 mois de suite sans lui donner de sujet de plainte. Il avait établi une pique d'amour-propre choquante, sous beaucoup de rapports entre sa maîtresse et sa fille. La pique triomphe dans l'amour-goût dont elle fait le destin. C'est l'expérience par laquelle on différencie le mieux l'amour-goût de l'amour-passion. C'est une vieille maxime de guerre que l'on dit aux jeunes gens lorsqu'ils arrivent au régiment, que si l'on met un billet de logement pour une maison où il y a 2 sœurs et qu'on veuille être aimé de l'une d'elles, il faut faire la cour à l'autre. Auprès de la plupart des femmes espagnoles jeunes et qui font l'amour, si vous voulez être aimé, il suffit d'afficher de bonne foi et avec modestie que vous n'avez rien dans le cœur pour la maîtresse de la maison. C'est de l'aimable général Lassalle que je tiens cette maxime utile. C'est la manière la plus dangereuse d'attaquer l'amour-passion. La pique d'amour-propre fait le lien des mariages les plus heureux, après ceux que l'amour a formés. Beaucoup de maris s'assurent pour de longues années l'amour de leur femme en prenant une petite maîtresse 2 fois après 2 mois après le mariage. On fait naître l'habitude de ne penser qu'à un seul homme, et les liens de famille viennent la rendre invisible et invincible. Si dans le siècle et à la cour de Louis XV, l'on a vu une grande dame, Madame de Choiseul, adorer son mari, c'est qu'il paraissait avoir un intérêt vif pour sa sœur, la duchesse de Gramont. La maîtresse la plus négligée, dès qu'elle vous fait voir qu'elle préfère un autre homme, nous ôte le repos et jette dans notre cœur toutes les apparences de la passion. Le courage de l'Italien est un accès de colère, le courage de l'Allemand un moment d'ivresse, le courage de l'Espagnol un trait d'orgueil. S'il y avait une nation où le courage fut souvent une pique d'amour-propre entre les soldats de chaque compagnie, entre les régiments de chaque division, dans les déroutes, comme il n'y aurait plus de point d'appui où l'on ne saurait comment arrêter les armées de cette nation. Prévoir le danger et chercher à y porter remède serait le premier des ridicules parmi ces fuyards vaniteux. Il ne faut qu'avoir ouvert une relation quelconque d'un voyage chez les sauvages de l'Amérique Nord, dit l'un des plus aimables philosophes français, pour savoir que le sort ordinaire des prisonniers de guerre est non pas seulement d'être brûlés vifs et mangés, mais d'être auparavant liés à un poteau, près d'un bûcher enflammé, pour y être pendant plusieurs heures, tourmentés par tout ce que la rage peut imaginer de plus féroce et de plus raffiné. Il faut lire ce que racontent de ces affreuses scènes les voyageurs témoins de la joie cannibale des assistants, et surtout de la fureur des femmes et des enfants, et de leur plaisir atroce à rivaliser de cruauté. Il faut voir ce qu'ils ajoutent de la fermeté héroïque, du sang-froid inaltérable du prisonnier, qui non seulement ne donne aucun signe de douleur, mais qui brave et défie ses bourreaux par tout ce que l'orgueil est le plus hautain, l'ironie le plus amère et le sarcasme le plus insultant. Chantant ses propres exploits, énumérant les parents, les amis, les spectateurs qu'il a tués, détaillant les supplices qu'il leur a fait souffrir, et accusant tous ceux qui l'entourent de lâcheté, de pusillanimité, d'ignorance, à savoir tourmenter, jusqu'à ce que, tombant en lambeaux et dévoré vivant sous ses propres yeux, par ses ennemis enivrés de fureur, le dernier souffle de sa voix et sa dernière injure s'exhale avec sa vie. Mais tout cela serait incroyable chez les nations civilisées. Il paraîtra une fable à nos capitaines de grenadiers les plus intrépides et sera un jour évoqué en doute par la postérité. Ce phénomène physiologique tient à un état particulier de l'âme du prisonnier qui établit entre lui d'un côté et tous ses bourreaux de l'autre une lutte d'amour-propre, une gageure de vanité à qui ne cédera pas. Nos braves chirurgiens militaires ont souvent observé que des blessés qui, dans un état calme d'esprit et de sens, auraient poussé les hauts cris durant certaines opérations, ne montrent au contraire que calme et grandeur d'âme s'ils sont préparés d'une certaine manière. Il s'agit de les piquer d'honneur. Il faut prétendre d'abord avec ménagement, puis avec contradictions irritantes, qu'ils ne sont pas en état de supporter l'opération sans jeter des cris. Chapitre 39 De l'amour à querelle. Il y en a deux espèces. Premièrement, celui où le querellant aime. Deuxièmement, celui où il n'aime pas. Si l'un des deux amants est trop supérieur dans les avantages qu'ils estiment tous les deux, il faut que l'amour de l'autre meure, car la crainte du mépris viendra tôt ou tard arrêter tout court la cristallisation. Rien n'est odieux aux gens médiocres comme la supériorité de l'esprit. C'est là, dans le monde de nos jours, la source de la haine. Et si nous ne devons pas à ce principe des haines atroces, c'est uniquement parce que les gens qu'ils séparent ne sont pas obligés de vivre ensemble. Que sera-ce dans l'amour où, tout étant naturel, surtout de la part de l'être supérieur, La supériorité n'est masquée par aucune précaution sociale. Pour que la passion puisse vivre, il faut que l'inférieur maltraite son partenaire. Autrement, celui-ci ne pourra pas fermer une fenêtre sans que l'autre ne se croie offensé. Quant à l'être supérieur, il se fait illusion, et l'amour qu'il sent non seulement ne court aucun risque, mais presque toutes les faiblesses dans ce que nous aimons nous le rendent plus cher. Immédiatement après l'amour, passion est payée de retour, entre gens de la même portée, il faut placer pour la durée l'amour à querelle, où le querellant n'aime pas. On en trouvera des exemples dans les anecdotes relatives à la duchesse de Berry, dans les mémoires de Duclos. Participant à la nature des habitudes froides fondées sur le côté prosaïque et égoïste de la vie, et compagne inséparable de l'homme jusqu'au tombeau, cet amour peut durer plus longtemps que l'amour-passion lui-même. Mais ce n'est plus l'amour, c'est une habitude occasionnée par l'amour, et qui n'a de cette passion que les souvenirs et le plaisir physique. Cette habitude supposait nécessairement des âmes moins nobles. Chaque jour, il se forme un petit drame. Me grondera-t-il qui occupe l'imagination? Comme dans l'amour-passion, chaque jour, on avait besoin de quelques nouvelles preuves de tendresse. Voir les anecdotes sur Madame d'Ache et Saint-Lambert. Il est possible que l'orgueil refuse de s'habituer à ce genre d'intérêt. Alors, après quelques mois de tempête, l'orgueil tue l'amour. Mais on voit cette noble passion résister longtemps avant d'expirer. Les petites querelles de l'amour heureux font longtemps illusion à un cœur qui aime encore et qui se voit maltraité. Quelques raccommodements tendres peuvent rendre la transition plus supportable. Sous le prétexte de quelques chagrins secrets, de quelques malheurs de fortune, l'on excuse l'homme qu'on a beaucoup aimé. On s'habitue enfin à être querellé. Vous trouvez en effet hors de l'amour-passion, hors du jeu, hors de la possession du pouvoir, quelque autre source d'intérêt de tous les jours, comparable à celle-là, pour la vivacité. Si le querellant vient à mourir, on voit la victime qui survit ne se consoler jamais. Ce principe fait le lien de beaucoup de mariages bourgeois, le grondé s'entend parler toute la journée de ce qu'il aime le mieux. Il y a une fausse espèce d'amour à querelle. J'ai pris dans une lettre d'une femme d'infiniment d'esprit le chapitre 33. Toujours un petit doute à calmer, voilà ce qui fait la soif de tous les instants de l'amour-passion. Comme la crainte la plus vive ne l'abandonne jamais, ses plaisirs ne peuvent jamais ennuyer. Chez les gens bourrus ou mal élevés, ou d'un naturel extrêmement violent, ce petit doute à calmer, cette crainte légère, se manifeste par une querelle. Si la personne aimée n'a pas l'extrême susceptibilité, fruit d'une éducation soignée, elle peut trouver plus de vivacité, par conséquent, plus d'agrément dans un amour de cette espèce. Et même avec toute la délicatesse possible, si l'on voit le furieux, première victime de ces transports, il est bien difficile de ne pas l'en aimer davantage. Ce que Lord Mortimer regrette peut-être le plus dans sa maîtresse, ce sont les chandeliers qu'elle lui jetait à la tête. En effet, si l'orgueil pardonne et admet de telles sensations, il faut convenir qu'elles font une cruelle guerre à l'ennui, ce grand ennemi des gens heureux. Saint-Simon, l'unique historien qu'ait eu la France, dit, tome 5, page 43, « Après maintes passades, la duchesse de Berry s'était éprise tout de bon de Rion, cadet de la maison d'Haïdée, fils d'une sœur de Madame de Biron. Il n'avait ni figure ni esprit, c'était un garçon gros, court, joufflu et pâle, qui, avec beaucoup de bourgeons, ne ressemblait pas mal à un abcès. Il avait de belles dents, n'avait pas imaginé causer une passion qui, en moins de rien, devint effrénée et qui dura toujours, sans néanmoins empêcher les passades et les goûts de traverse. Il n'avait rien vaillant, mais force frères et sœurs qui n'en avaient pas davantage. Monsieur et Madame de Ponce, dame d'atour de Madame la Duchesse de Berry, étaient de leurs parents et de la même province. Ils firent venir le jeune homme, qui était lieutenant de dragons, pour tâcher d'en faire quelque chose. À peine fut-il arrivé que le goût se déclara et il fut le maître du Luxembourg. Monsieur de Lauzun, dont il était petit-neveu, en riait sous cap. Il était ravi et se voyait renaître en lui, au Luxembourg, du temps de Mademoiselle. Il lui donnait des instructions et Rion, qui était doux et naturellement poli et respectueux, bon et honnête garçon, les écoutait. Mais bientôt il sentit le pouvoir de ses charmes qui ne pouvait captiver que l'incompréhensible fantaisie de cette personne. Et sans en abuser, il se fit aimer de tout le monde, mais il traita sa duchesse comme M. de Lauzun avait traité Mademoiselle. Il fut bientôt paré des plus riches dentelles, des plus riches habits, muni d'argent, de boucles, de joyaux. Il se faisait désirer, se plaisait à donner de la jalousie à la princesse et à paraître jaloux lui-même. Souvent, il la faisait pleurer. Peu à peu, il la mit sur le pied de ne rien faire sans sa permission, pas même les choses indifférentes. Tantôt, prête à sortir pour aller à l'opéra, il la faisait demeurer. D'autres fois, il y faisait aller malgré elle. Il l'obligeait à faire du bien à des dames qu'elle n'aimait point ou dont elle était jalouse, et du mal à des gens qui lui plaisaient et dont il faisait le jaloux. Jusqu'à sa parure, elle n'avait pas la moindre liberté. Il se divertissait à la faire décoiffer ou à lui faire changer d'habit quand elle était toute prête. Et cela si souvent et quelquefois si publiquement qu'il avait accoutumé le soir à prendre ses ordres pour la parure et l'occupation du lendemain. Et le lendemain, il changeait tout, et la princesse pleurait tant et plus. Enfin, on était venu à l'envoyer des messages par des valets affidés, car il logea presque en arrivant au Luxembourg, et les messages se réitéraient à plusieurs fois, pendant sa toilette, pour savoir quel ruban elle mettrait. Et ainsi de l'habit et des autres parures, et presque toujours il lui faisait porter ce qu'elle ne voulait point. Si quelquefois elle osait se licencier à la moindre chose sans son congé, il la traitait comme une servante, et les pleurs duraient souvent plusieurs jours. Cette princesse si superbe, et qui se plaisait tant à montrer et à exercer le plus démesuré orgueil, s'avilit à faire des repas obscurs avec lui et avec des gens sans aveu. Elle, avec qui nul ne pouvait manger s'il était prince du sang. Le jésuite Riglet, qu'elle avait connu enfant et qu'il avait cultivé, était admis dans ses repas particuliers sans qu'il en eût honte, dit que la duchesse en fut embarrassée. Madame de Mouchy était la confidente de toutes ces étranges particularités. Elle et Rion mandaient les convives et choisissaient les jours. Cette dame raccommodait les amants, et cette vie était toute publique au Luxembourg, où tout s'adressait à Rion, qui, de son côté, avait soin de bien vivre avec tous et avec un air de respect qu'il refusait en public à sa seule princesse. Devant tous, il lui faisait des réponses brusques qui faisaient baisser les yeux au présent et rougir la duchesse, qui ne contraignait point ses manières passionnées pour lui. Rion était pour la duchesse un remède souverain à l'ennui. Une femme célèbre dit tout à coup au général Bonaparte, alors jeune héros couvert de gloire et sans crime envers la liberté, « Général, une femme ne peut être que votre épouse ou votre sœur. » Le héros ne comprit pas le compliment. L'on s'en est vengé par de belles injures. Ces femmes-là aiment à être méprisées par leur amant. Elles ne l'aiment que cruel. Chapitre 29 bis. Remèdes à l'amour. Le sceau de Leucade était une belle image dans l'Antiquité. En effet, le remède à l'amour est presque impossible. Il faut non seulement le danger qui rappelle fortement l'attention de l'homme aux soins de sa propre conservation, mais il faut, ce qui est bien plus difficile, la continuité d'un danger piquant et que l'on puisse éviter par adresse, afin que l'habitude de penser à sa propre conservation ait le temps de naître. Je ne vois guère qu'une tempête de 16 jours, comme celle de Don Juan, ou le naufrage de M. Cochelet parmi les Maures. Autrement, l'on prend bien vite l'habitude du péril, et même l'on se remet à songer à ce qu'on aime avec plus de charme encore quand on est en vedette à 20 pas de l'ennemi. Nous l'avons répété sans cesse, l'amour d'un homme qui aime bien jouit ou frémit de tout ce qu'il s'imagine. Il n'y a rien dans la nature qui ne lui parle de ce qu'il aime. Or, jouir et frémir fait une occupation fort intéressante et auprès de laquelle toutes les autres pâlissent. Un ami qui veut procurer la guérison du malade doit d'abord être toujours du parti de la femme aimée, et tous les amis qui ont plus de zèle que d'esprit ne manquent pas de faire le contraire. C'est attaquer avec des forces trop ridiculement inégales cet ensemble d'illusions charmantes que nous avons appelé autrefois cristallisation. L'ami guérisseur doit avoir devant les yeux que s'il se présente une absurdité à croire, comme il faut pour l'amant ou le dévorer ou renoncer à tout ce qu'il attache à la vie, il la dévorera, et avec tout l'esprit possible, niera dans sa maîtresse les vices les plus évidents et les infidélités les plus atroces. C'est ainsi que dans l'amour-passion, avec un peu de temps, tout se pardonne. Dans les caractères raisonnables et froids, il faudra, pour que l'amant dévore les vices, qu'il ne les aperçoive qu'après plusieurs mois de passion. Bien loin de chercher grossièrement et ouvertement à distraire l'amant, l'ami guérisseur doit lui parler à satiété et de son amour et de sa maîtresse, et en même temps faire naître sous ses pas une foule de petits événements. Quand le voyage isole, il n'est pas remède, et même rien ne rappelle plus tendrement ce qu'on aime que les contrastes. C'est au milieu des brillants salons de Paris et auprès des femmes vantées comme les plus aimables que j'ai le plus aimé ma pauvre maîtresse, solitaire et triste, dans son petit appartement au fond de la Romagne. J'épiais sur la pendule superbe du brillant salon où j'étais exilé l'heure où elle sort à pied et par la pluie pour aller voir son amie. C'est en cherchant à l'oublier que j'ai vu que les contrastes sont la sourde souvenir moins vif, mais bien plus céleste que ceux que l'on va chercher au lieu où jadis on l'a rencontré. Pour que l'absence soit utile, il faut que l'ami guérisseur soit toujours là pour faire à l'amant toutes les réflexions possibles sur les événements de son amour et qu'il tâche de rendre ses réflexions ennuyeuses par leur longueur ou leur peu d'à-propos, ce qui leur donne l'effet de lieu commun. Par exemple, être tendre et sentimental après un dîner égayé de bon vin. S'il est si difficile d'oublier une femme auprès de laquelle on a trouvé le bonheur, c'est qu'il est certain moment que l'imagination se peut se lasser de représenter et d'embellir. Oh, je ne dis rien de l'orgueil, remède cruel et souverain, mais qui n'est pas à l'usage des âmes tendres. Les premières scènes du Roméo de Shakespeare forment un tableau admirable. Il y a loin de l'homme qui se dit tristement « She hath for towards love » à celui qui s'écrie au comble du bonheur « Come what sorrow can ». Chapitre 39 Terre. L'ami guérisseur doit bien se garder des mauvaises raisons, par exemple de parler d'ingratitude. C'est ressusciter la cristallisation que de lui ménager une victoire et un nouveau plaisir. Il ne peut pas y avoir d'ingratitude en amour. Le plaisir actuel paie toujours et au-delà les sacrifices les plus grands en apparence. Je ne vois pas d'autre tort possible que le manque de franchise. Il faut accuser juste l'état de son cœur. Pour peu que l'ami guérisseur attaque l'amour de front, l'amant répond « Être amoureux, même avec la colère de ce qu'on aime, ce n'est pas moins, pour m'abaisser à votre style de marchand, avoir un billet à une loterie, dont le bonheur est à mille lieues, au-dessus de tout ce que vous pouvez m'offrir dans votre monde d'indifférence et d'intérêt personnel. Il faut avoir beaucoup de vanité et de la bien petite pour être heureux parce qu'on vous reçoit bien. Je ne blâme point les hommes d'en agir ainsi dans leur monde. Mais auprès de Léonore, je trouvais un monde où tout était céleste, tendre, généreux. La plus sublime et presque incroyable vertu de notre monde, dans nos entretiens, ne comptait que pour une vertu ordinaire et de tous les jours. Laissez-moi au moins rêver au bonheur de passer ma vie auprès d'un tel être. Quoique je vois bien que la calomnie m'a perdu et que je n'ai plus d'espoir, du moins je lui ferai le sacrifice de ma vengeance. » On ne peut guère arrêter l'amour que dans les commencements. Outre le prompt départ et les distractions obligées du grand monde, comme dans le cas de la comtesse Kallenberg, il y a plusieurs petites ruses que l'ami guérisseur peut mettre en usage. Par exemple, il fera tomber sous vos yeux, comme par hasard, que la femme que vous aimez n'a pas pour vous, hors de ce qui fait l'objet de la guerre, les égards de politesse et d'estime qu'elle accordait à un rival. Les plus petites choses suffisent, car tout est signe en amour. Par exemple, elle ne vous donne pas le bras pour monter à sa loge. Cette niaiserie prise au tragique par un cœur passionné, liant une humiliation à chaque jugement qui forme la cristallisation, empoisonne la source de l'amour et peut le détruire. On peut faire accuser la femme qui se conduit mal avec notre ami d'un défaut physique et ridicule, impossible à vérifier. Si l'amant pouvait vérifier la calomnie, même quand il la trouverait fondée, elle serait rendue dévorable par l'imagination et bientôt il n'y paraîtrait pas. Il n'y a que l'imagination qui puisse se résister à elle-même. Henri III le savait bien quand il médisait de la célèbre duchesse de Montpensier. C'est donc l'imagination qu'il faut surtout garder chez une jeune fille que l'on veut préserver de l'amour. Et moins elle aura de vulgarité dans l'esprit, plus son âme sera noble et généreuse, plus en un mot elle sera digne de mes respects, plus grand sera le danger qu'elle court. Il est toujours périlleux pour une jeune personne de souffrir que ses souvenirs s'attachent d'une manière répétée et avec trop de complaisance au même individu. Si la reconnaissance, l'admiration ou la curiosité viennent renouer les liens du souvenir, elle est presque sûrement sur le bord du précipice. Plus grand est l'ennui de la vie habituelle, Plus sont actifs les poisons nommés gratitude, admiration, curiosité. Il faut alors une rapide, prompte et énergique distraction. C'est ainsi qu'un peu de rudesse et de non-curance dans le premier abord, si la drogue est administrée avec naturel, est presque un surmoyen de se faire respecter d'une femme d'esprit. Fin de l'amour.